Comment va le marché immobilier aujourd'hui ?
Catastrophique.
Non, la vie est belle. Ça va.
Sans sa mère, il serait peut-être à la rue.
Voilà, ça c'est ma maison.
Pendant que nous, on peut toujours se gratter pour espérer un jour avoir une maison à nous.
Un gros effort de fait pour remettre la France d'aplomb. Ce n'est pas vous qui l'avez fait, les trentenaires, c'est nous qui l'avons fait.
Nous allons être confrontés à la plus grande grave crise du logement que nous n'ayons connue.
Voir comment nous on peut aider les enfants.
Tant mieux si on a été heureux, si on a profité de l'immobilier, tout ce que vous voulez, mais nous devions aider la génération suivante à construire son avenir et non pas tout prendre pour nous. Après moi le déluge, et bien maintenant il pleut.
On vous prévient, c'est encore pire que ce que vous pensez et nous allons le démontrer par les chiffres. Bienvenue dans cet épisode 2 de notre série « Les boomers ont-ils eu la vie facile ?» Nous nous attaquerons cette fois-ci à la partie logement. Nous allons comparer deux ménages sans enfants qui souhaitent acheter leur premier bien immobilier. Un jeune couple durant les années 1975 et un jeune couple en 2025 pour tenter de répondre de façon claire, objective et prouvée à cette question. À situation comparable, les boomers ont-ils eu la vie facile sur la partie logement ? Qu'est-ce qui a changé et pourquoi ? Mais pour comprendre le présent, il faut d'abord regarder le passé. Alors commençons par la première époque avec notre couple de 25 ans dans les années 1975. Imaginez, vous avez autour de 25 ans, en couple, vous travaillez et vous avez un projet en tête. Achetez votre premier logement même si vous avez des revenus assez modestes. Vous cherchez quelque chose de simple. Un toit à vous pour fonder une famille avec votre moitié. Mais pour quel prix ? Allons tout de suite dans le vif du sujet avec des chiffres. À l'époque, le prix du logement reste proche des revenus, dans ce qu'on appelle le tunnel Frigit. C'est une zone de stabilité de long terme. Ce format est soutenu par NordVPN qui propose actuellement une offre spéciale avec 4 mois d'abonnement offert sur les 2 ans. Et c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Ça vous laisse libre d'essayer. Vous avez le lien en commentaire et description. La suite offre désormais un gros plus, la protection anti-menace Pro, en temps réel sur vos 10 appareils. Les sites malveillants ou pop-up frauduleux sont bloqués avant même d'arriver jusqu'à vous, de même pour les trackers qui ne respectent pas votre vie privée. Vous avez la possibilité de vous connecter partout dans le monde pour accéder à n'importe quel contenu, pendant que NordVPN s'occupe de votre sécurité, notamment en scannant vos mails en cas de fuite sur le darknet, s'assurant ainsi que votre navigation reste bien sécurisée. Vous retrouverez également le gestionnaire de mots de passe dédié, ainsi que le cloud pour vos fichiers. Alors, vous attendez quoi pour passer à l'action et reprendre votre hygiène numérique en main ? Regardez ce graphique officiel de l'IGEDD. Il montre l'indice du prix des logements rapporté aux revenus disponibles par ménage. En 1975, la France est autour de 0,9. Et le prix moyen des logements achetés représentait environ 3 années de revenus. À cette époque, on pouvait compter environ 48 952 euros par an, ajusté à l'inflation, pour le revenu disponible par ménage. Mais quel était le prix en 1975 pour 100 mètres carrés en France ? En moyenne, environ 103 781 euros, soit environ 1040 euros le mètre carré. À l'adresse 43 rue du Télégraphe, par exemple, au point le plus haut de Paris, nous pouvions voir sur cette annonce immobilière de 1975 ses prix pour des logements neufs. Un studio à 75 355 euros, un 2 pièces à 167 768 euros et un 3 pièces à 204 535 euros. Mais comme notre jeune couple a des revenus modestes, il vise plutôt l'annonce du 2 pièces, qui représenterait environ 3,43 années de revenus. Cependant, la plupart des logements de l'époque n'ont pas les standards d'aujourd'hui. Pour les constructions datant d'avant 1949 jusqu'aux années 70, l'isolation était peu présente, voire inexistante. Et beaucoup de logements étaient construits avec de l'amiante ou du plomb. Moins d'un logement sur deux possédait une douche ou une baignoire.
Je constate une chose, qu'il y a beaucoup de logements qui ne possèdent pas de salle de bain.
Je vais aux douches tous les samedis.
Oui, mais tous les jours.
Au lavabo.
Dans la cuisine ?
Dans la cuisine, oui.
Et certains n'avaient pas encore le téléphone ou la télévision à l'époque. Seuls 36% des résidences principales étaient dotées du chauffage central, collectif ou individuel. Seulement 57% possédaient des WC à l'intérieur du logement.
45% des logements ne possèdent pas d'eau.
Au total, presque 40% des logements n'avaient pas de confort sanitaire à l'époque. Autrement dit, les logements dans les années 75 étaient souvent vieux, parfois même insalubres et très loin du confort que nous pouvons connaître aujourd'hui. Maintenant, revenons à notre jeune couple qui souhaite acheter un 2 pièces neuf à Paris d'une valeur de 167 768 euros. Pour pouvoir acheter ce bien et réaliser leur rêve, ils sont obligés de passer par une case cruciale, l'emprunt à la banque. Or, durant cette période, les taux d'intérêt sont élevés, aux alentours de 10-11%. Mais attention, ce chiffre peut être trompeur. Il s'inscrit dans un contexte de forte inflation, donc le taux réel net d'inflation est en réalité négatif en 1975. D'ailleurs, avant le milieu des années 90, la durée moyenne des prêts était plus longue dans le neuf que dans l'ancien. Le neuf était en effet privilégié dans l'allocation du crédit, alors réglementé. Par exemple, en 1975, la durée était d'environ 14 ans pour les logements anciens contre 17 ans pour les logements neufs. Et voici un autre détail très important pour la suite. Entre 1975 et 1985, l'inflation moyenne se situait entre 10 et presque 15% par an. Alors, quel impact sur un crédit à mensualité fixe ? Regardons l'évolution des revenus. Le SMIC horaire brut passe d'environ 1,18 euros fin 75 à 3,89 euros mi-1985. Et la médiane des salaires nets annuels passe de 3645 euros à 10 829 euros dans la même période de temps. Ici, ces hausses en valeur nominale ne servent pas à mesurer l'enrichissement réel du ménage. Elles servent surtout à comprendre qu'en période de forte inflation, une mensualité fixe pesait de moins en moins lourd au fil des années. Et pour rappel, les taux, eux, restent à mensualité fixe, donc... Voici ce que l'achat du bien représenterait pour notre couple de 25 ans en 1975. Le taux d'effort baisse car la mensualité du crédit reste fixe en nominal, tandis que le revenu du ménage est supposé augmenter avec l'inflation, très élevée à la fin des années 70 et au début des années 80. Ainsi, même si la mensualité ne change pas, elle pèse de moins en moins lourd dans le budget au fil des ans. Ici, il faut surtout comprendre une chose, ces chiffres servent à illustrer une dynamique. À cette époque, avec l'inflation, le poids de la mensualité se desserrait beaucoup plus vite qu'aujourd'hui. En d'autres termes, notre jeune couple de 1975 peut donc devenir propriétaire d'un appartement de 2 pièces à Paris à l'âge de 40 ans seulement. Mais Paris étant un cas particulier, regardons plutôt par rapport à une moyenne générale en France. Pour un logement de 100 m² à 103 781 euros, avec un revenu du foyer annuel et initial de 48 952 euros, sur une durée d'emprunt de 14,13 ans exactement, avec un taux de 10,49%. Le premier graphique montre le poids de la mensualité dans le revenu. Le second graphique regarde la dette restante, mais exprimée en valeur réelle, pouvoir d'achat. En 1975, la mensualité est fixe. Mais l'inflation est forte, donc les revenus nominaux augmentent plus vite. Résultat, le poids de la mensualité dans le revenu s'allège très rapidement. On passe d'environ 26% au départ à 10% au bout de 10 ans. Et c'est pareil pour la dette. Même si vous devez encore de l'argent à la banque, sa valeur réelle fond, parce que l'inflation réduit le poids de ce capital restant. Et à partir de 1977, les nouvelles aides au logement peuvent encore amortir la charge pour certains ménages modestes. La réforme de 1977 crée le nouveau cadre de l'APL pour les logements concernés à compter du 5 janvier 1977 et met en place les prêts aidés à l'accession. Une étude de Claude Taffin montre ensuite qu'avec le PAP et l'APL, le taux d'effort moyen des bénéficiaires modestes pouvait être ramené d'environ 30 à 21%. Alors, bien que les conditions de vie dans les logements de cette époque pouvaient être parfois vraiment difficiles et que les taux d'intérêt explosaient, le prix des logements était beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. Et le taux d'effort, bien qu'élevé au départ, baissait rapidement par la suite. Un couple avec des revenus modestes pouvait être propriétaire à l'âge de 40 ans, pour les raisons que nous venons de voir, et même à Paris. Aujourd'hui, sauf cas exceptionnel, ce n'est tout simplement pas possible. Mais que s'est-il passé entre 1975 et aujourd'hui pour que nous en arrivions à un tel résultat ? il est désormais temps de revenir dans le présent pour comparer les deux situations. Et vous allez voir, en réalité, la situation est bien pire que ce que l'on pourrait imaginer.
Fixe pour moi, bien con.
Nous voici dorénavant dans la peau d'un couple d'environ 25 ans en 2025, avec également des salaires modestes, mais qui ont réussi à obtenir ce qui est si rare aujourd'hui, un CDI. Sans enfant pour le moment, ils aimeraient donc acheter rapidement et commencer à construire quelque chose. Sauf qu'entre 1975 et aujourd'hui, ce n'est plus du tout le même monde. Et vous allez tout de suite comprendre réellement pourquoi. Attaquons le vif du sujet. Pour commencer, revoyons le graphique de l'IGEDD. En 1975, la France était autour de 0,9. En 2025, elle atteint les 1,55. En d'autres termes, à situation comparable, le logement est d'environ 70% plus cher relativement aux revenus qu'en 1975. Et c'est encore pire à Paris. Si nous reprenons notre exemple précédent avec le studio à Paris en 1975 qui valait environ 3,8 années de salaire, aujourd'hui nous passons à au moins 10 ans de salaire. Depuis 2000, les prix de l'immobilier ont surtout explosé dans un environnement financier devenu beaucoup plus inflationniste pour les prix. Baisse des taux, allongement de la durée des prêts et hausse continue de l'endettement immobilier des ménages.
Les constructions actuelles sont chères parce que d'abord le foncier est cher. Il y a eu une sorte de spéculation sur le foncier qui était très importante ces dernières années.
La guerre en Ukraine et la crise énergétique qui en a résulté ont également entraîné une forte hausse du prix des matériaux de construction à travers le monde, notamment du ciment, dont la production est particulièrement énergivore. Sans oublier la protection du climat qui fait exploser les coûts de construction.
Autrement dit, la baisse du coût apparent du crédit a largement soutenu la hausse des prix. Mais pour comparer vraiment les époques, il ne suffit pas de regarder les revenus affichés. Il faut regarder ce qu'il reste réellement une fois les dépenses déjà engagées payées. Or, de ce point de vue, la situation s'est nettement durcie. Les dépenses pré-engagées représentaient 13,5% du revenu disponible brut au début des années 60, 19% en 1975 contre 29,5% en 2024. Et dans cet ensemble, le logement constitue de loin le premier bloc. Avec un revenu initial du foyer de 60 500 euros par an, notre jeune couple n'a donc que très peu de marge pour acheter son premier logement, qui ne sera certainement pas un deux pièces à Paris et avec forcément un emprunt conséquent. D'ailleurs, parlons des taux d'intérêt et de la durée d'emprunt. En 2025, les taux sont relativement bas comparés à ceux des années 75. Nous sommes aux alentours de 3 à 4%. Mais comme nous l'avons dit précédemment, les prix des logements ont doublé, voire triplé. Et la hausse des revenus, mangée par les dépenses contraintes, ne suffit pas.
Quand on voit que les salaires ont été multipliés par 5, quand le prix du logement a été multiplié par 12 en 40 ans.
Alors, pour compenser, les banques étendent les durées des crédits, passant de 14 ans jusqu'à environ 23 ans. Et comme si la hausse des prix ne suffisait pas, l'accès au crédit s'est lui aussi durci. Les banques regardent de plus en plus près. Elles exigent plus de garanties, plus de stabilité et un apport beaucoup plus lourd. En conséquence, pour de nombreux jeunes actifs, le rêve immobilier se heurte désormais à un mur avant même la première visite. Celui d'un dossier jugé insuffisamment solide. Il est désormais temps de comparer nos deux couples. Voici l'heure de vérité. Si nous comparons à situation égale par rapport à notre jeune couple de 1975, quels sont les résultats pour un logement de 100 mètres carrés avec un apport de 10%? Au départ, le crédit pèse tout autant pour chacun. Mais on peut voir qu'il finit par s'alléger beaucoup plus rapidement en 1975. Alors qu'en 2025, même après 10 ans, le crédit reste autour de 23% du revenu. Et il est encore autour de 19% environ au bout de 20 ans. Le crédit s'allège entre guillemets plus rapidement en 1975 parce que le revenu, qui suit et dépasse l'inflation, augmente plus vite, mais aussi parce que la durée de remboursement est beaucoup plus courte. Si l'on corrige la dette restante par l'inflation, le poids réel du crédit chute beaucoup plus vite en 1975 qu'en 2025. En apparence, il reste encore du capital à rembourser dans les deux cas, mais en 1975, l'inflation élevée rongeait entre guillemets rapidement la valeur réelle de cette date. Après 5 ans, elle ne représente déjà plus qu'environ 45 248 euros en euros constants 2025 et après 10 ans, à peine 16 325 euros. En 2025, au contraire, la baisse est bien plus lente. Il reste encore 151 823 euros de dette réelle après 10 ans et même 36 093 euros après 20 ans. Le graphique montre un point essentiel. Comme le prix d'achat est bien plus élevé en 2025, le ménage de 2025 doit rembourser pendant environ 15 ans avant que son capital restant dû ne redescende au niveau du prix auquel le couple de 1975 avait acheté sa maison. Notre couple ne deviendrait donc pleinement propriétaire qu'à l'approche de ses 50 ans. 10 années de plus. 10 années pendant lesquelles le crédit continue de peser longtemps sans vraiment desserrer son étau. Et l'écart devient presque vertigineux lorsqu'on reprend notre exemple bien réel de départ, le deux pièces parisien situé au 43 rue du Télégraphe. En 1975, il valait donc 167 768 euros ajustés à l'inflation. Mais en 2025, ce même deux pièces au même endroit vaut désormais 470 396 euros. Son prix a donc été multiplié par 2,8, soit une explosion d'environ 180%. En conséquence, voici ce que cela donnerait pour notre couple souhaitant acheter ce bien. Après 15 ans, le taux d'effort descendrait à 31,30% seulement et le capital restant dû resterait beaucoup trop élevé. Encore une fois, il faut lire ces chiffres comme une simulation comparative destinée à montrer la dynamique financière du crédit à bien comparable et non comme la reproduction exacte d'un dossier bancaire standard, puisqu'un taux d'effort initial de 42% serait impossible. Le constat est glaçant. À situation comparable, sur le papier, les jeunes d'aujourd'hui commencent avec une charge bien plus lourde et surtout bien plus longue que celle qu'a connue une partie de la génération des boomers pour accéder à la propriété. En 1973, 35% des 25-45 ans aux revenus les plus faibles étaient propriétaires. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 17%. Alors, quelles options restent-il pour notre jeune couple qui doit éventuellement se résoudre à l'idée de ne pas pouvoir acheter pour le moment ? Il reste alors une autre possibilité. Trouver une location moins chère, au prix de nouvelles concessions. Plus petit, plus loin, moins bien situé.
Très loin. Karen fait 2 heures de transport à l'aller, 2 heures de transport au retour.
Accepter de déménager encore, simplement pour rester à flot. Un quart des jeunes actifs de 25 à 34 ans changent ainsi de logement chaque année pour s'adapter à leurs contraintes. Mais même en renonçant, même en s'éloignant, l'accès à un logement abordable reste parfois hors de portée. Notamment car les garanties pour les locations sont de plus en plus exigeantes.
Il est jeune, il est en CDI, il a 2000 euros par mois, il n'arrive pas à louer.
L'offre locative n'a jamais été aussi basse en France. Or, moi, ça me bouleverse parce que j'ai des enfants qui doivent démarrer leur vie et ça touche les jeunes principalement puisqu'ils n'ont pas les moyens d'acheter. Et donc, s'il n'y a pas d'offre locative, je ne sais pas comment ils vont démarrer leur vie.
À structure constante, l'indice des loyers rapportés aux revenus des ménages est resté relativement stable sur une longue période. Mais cela n'est pas contradictoire avec ce que vivent concrètement les locataires. De 1970 à 2013, le poids du loyer dans le revenu des locataires a plus que doublé. Il passe d'environ 10-12% vers 1975 à environ 23-24% en 2015. Pourquoi ? Premièrement, parce que le loyer moyen a augmenté plus vite que l'indice, entre guillemets, à structure constante, notamment avec l'amélioration de la qualité des logements et les effets de structure. Et deuxièmement, parce que les locataires se sont aussi appauvris relativement au reste des ménages. Autrement dit, même en renonçant à acheter, se loger est aujourd'hui beaucoup plus lourd qu'avant.
Aujourd'hui, le logement, c'est devenu un facteur de renoncement. Les étudiants, quand ils ne trouvent pas de studio pour se loger, vous savez ce qu'ils font ? Ben, ils renoncent aux études. 25% des jeunes couples qui renoncent à avoir un enfant parce qu'ils n'ont pas de logement. Il y a 22% des salariés qui renoncent à prendre le job qu'ils veulent parce qu'ils n'ont pas de logement. Mais quand est-ce qu'on va s'occuper de ça ?
Alors, vient ce plan B que de nombreux jeunes adultes pensaient avoir laissé derrière eux. Retourner vivre chez leurs parents.
À 27 ans, Adrian est rentré chez sa mère en Dordogne. Il a dû quitter son travail et sa vie car il n'arrivait pas à trouver un logement.
Près de 1,26 million de personnes âgées de 25 ans et plus vivent aujourd'hui dans cette situation. Mais ce qui devrait être qu'une parenthèse peut finir par s'installer dans le temps.
La maman a même dû emprunter pour payer le déménagement de sa fille et rapatrier ses affaires. Toute une vie entre parenthèses. Entreposé pour le moment dans ce garage.
Sauf que la cohabitation entre deux générations, sous le même toit, n'est pas toujours simple à vivre au quotidien.
Voilà, je vais rentrer, je vais retrouver les assiettes pas forcément rangées, le linge qui traîne comme avant. Je me dis que c'est temporaire.
À l'âge d'Adriane, Valérie était déjà propriétaire de la maison.
Et lorsqu'aucune de ces issues n'est possible, certains basculent malheureusement dans une situation bien plus dure encore. Celle de ne plus avoir de logement stable, jusqu'à dormir parfois dans leur voiture, alors même qu'ils ont un emploi.
C'est tellement irréaliste comme situation. J'ai un travail, je gagne bien ma vie, mais je n'ai pas d'endroit fixe pour dormir.
Ce couple de trentenaires n'oubliera jamais ce mois de galère où ils n'avaient que leur voiture pour survivre.
Alors, je prenais la couverture, on mettait comme ça la plupart du temps, on le bloquait, on l'allumait.
On a envie de hurler, mais pas la force d'hurler, donc souvent le soir, ouais, c'est dur.
Hyacinthe est chef de rang dans un restaurant parisien. Une solution de court terme dans cette structure accueillant les sans-abri, deux semaines tout au plus avant de retourner dans la rue et faire croire à ses collègues que tout est normal.
Et les boomers ne sont pas épargnés non plus. Certains se retrouvent également dans les mêmes situations.
Alors, voilà, moi chez moi, j'ai ma nourriture, puisqu'on ne mange que des sandwichs. Je ne peux rien manger d'autre, puisque je n'ai pas de réchaud, je n'ai rien pour faire chauffer à manger.
Ça fait un an et demi que je vis là. C'est pas une situation que j'ai envie qui perdure. Maintenant, j'ai pas d'autre solution.
Dans le même temps, parmi les ménages de 65 ans ou plus, la part de propriétaires est passée de 56,1% en 1984 à 74,1% en 2013. Les chiffres ont parlé, et la réalité qu'ils relèvent est malheureusement dramatique. Pour les jeunes d'aujourd'hui, se loger et devenir propriétaire n'a plus rien d'un parcours comparable à celui qu'ont connu les jeunes des années 70. Oui, acheter reste parfois possible, mais au prix d'un effort beaucoup plus lourd et long que celui qui était demandé à leurs parents ou leurs grands-parents. Et dans ce paysage, les inégalités se creusent. Certains partent avec une avance immense car ils ont des aides venant de leurs proches, avec une caution, un apport, une donation, un bien transmis, tandis que d'autres doivent partir de zéro et construire tout seul. Il faut d'ailleurs souligner une nuance importante. Cette aide vient souvent de la génération des boomers elle-même, qui soutient parfois ses enfants et ses petits-enfants face à un marché devenu bien plus fermé.
Les boomers, c'est leurs parents et leurs grands-parents qui, à leur niveau, les aident au quotidien.
Maintenant, on essaye de voir comment, nous, on peut aider les enfants.
Ça voudrait dire que vous cotiseriez davantage, vous participeriez à l'effort national. Vous seriez prêt à le faire.
Ah oui.
Mais cela ne change pas le constat de fond. L'accès au logement est aujourd'hui massivement plus inégalitaire.
La grand-mère fait hériter à son petit-fils son logement social. C'est incompréhensible. Quand à côté de ça, vous avez des mères qui travaillent et qui élèvent sur leurs enfants qui n'arrivent pas à se loger dans le logement.
Et pendant que plus des deux tiers des boomers possèdent aujourd'hui leur logement, les moins de 30 ans, eux, ne sont plus que 16,7% à pouvoir en dire autant. Le logement ne se contente plus de coûter cher. Il perturbe l'équilibre des vies. Se loger seul, se mettre en couple, fonder une famille, toutes ces étapes qui structuraient autrefois l'entrée dans l'âge adulte se retrouvent désormais retardées, fragilisées, parfois même empêchées. L'accès au logement, et plus encore à la propriété, est donc devenu beaucoup plus difficile pour les jeunes qu'il ne l'était pour les boomers. Mais ce constat pose une autre question. Que se passera-t-il lorsque cette génération, qui détient une part très importante du patrimoine des Français et de l'immobilier, disparaîtra ? C'est ce que nous verrons dans notre troisième épisode dédié au patrimoine. D'ailleurs, avez-vous vu le premier épisode dédié à la partie travail? Si ce n'est pas le cas, cliquez sur le lien qui s'affiche en haut à droite ou rendez-vous en description. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater, de liker ou partager cette vidéo si celle-ci vous a plu, c'est vraiment important pour nous. À bientôt !